Chapitre 11. Réunion de famille. Yémin cligna les yeux sous la pluie battante pour mieux voir.
« Je ne comprends pas, »
répéta-t-il à mi-voix. Il avait cru parler pour lui-même et sursauta quand Éta lui répondit. Il n'avait pas entendu son pas léger dans le fracas du déluge sur le pont.
« Cesse de faire des suppositions. Kenith nous expliquera quand on le verra. » « Je veux absolument savoir ce qui s'est passé, »
dit-il entêté. Il contemplait désolé la vague traînée de flammes, tout ce qui restait du parangon. Il avait observé la bataille, incapable de saisir ce qui s'était produit.
Pourquoi parangon avait-il bravé les serpents et la vivacia? C'était de la folie. Comment le feu s'était-il déclaré et pourquoi Kenith avait-il abandonné une si belle prise? Avait-il fait des prisonniers?
Le vide de l'incertitude menaçait de le dévorer. La tempête qui avait couvé toute la journée avait fini par éclater. La pluie battante formait un rideau gris qui ondoyait entre eux et le parangon embrasé. Transi, trempé, Yémin regardait fixement depuis le pont couler le navire que sa famille avait envoyé. Il allait sombrer avec tous leurs espoirs de rançon et de sauvetage. La pluie était une aubaine. Il n'avait pu trouver de vraies larmes.
« Rentre à l'intérieur !»
suggéra Éta, sa main chaude sur son bras. Il se retourna pour la regarder.
S'il lui restait le moindre réconfort dans sa misérable vie, c'était bien Éta.
Elle avait passé le ciré de Sorcor qui pendait beaucoup trop grand sur son corps mince. Elle essayait de l'apercevoir depuis les profondeurs de son capuchon. Quelques gouttes de pluie emperlaient son visage et ses cils. Elle cligna les yeux et les gouttes roulèrent le long de ses joues comme de fausses larmes.
Il la dévisageait, hébété de désir, frappé de mutisme par l'impossibilité de l'aveu.
Elle le tira par le bras et il se laissa entraîner. Sorcor avait cédé sa chambre à Éta. Yémin fut touché en remarquant le pot de thé fumant et les deux tasses sur la table. Elle avait préparé ce thé et l'avait appelé, lui, pour le partager. Elle lui indiqua une chaise et il s'assit, les vêtements dégoûtants, pendant qu'elle suspendait le ciré à une patère. Autrefois, cette chambre était celle de Kenith et certains de ses aménagements subsistaient. Mais le goût tapageur de Sorcor avait eu raison des choix plus simples de son capitaine. La nappe brodée à pompons occultait les lignes pures et élégantes de la table qu'elle recouvrait. Éta secoua quelques gouttes de pluie de ses cheveux et prit l'autre siège.
« Tu as l'air aussi malheureux qu'un chien errant, »
fit-elle remarquer en versant le thé. Elle poussa la tasse vers lui et ajouta sur un ton de reproche.
« Pourquoi dois-je sans cesse te rappeler d'avoir confiance en Kenith? Quoi qu'il arrive, nous devons nous en remettre à son jugement. Il y a longtemps, tu m'as dit qu'il était l'élu de ça. Tu n'y crois plus ?»
Il avala une petite gorgée de thé et sentit la chaleur de la cannelle. Malgré sa profonde mélancolie, il la savoura. Éta savait apparemment que les petits plaisirs du corps constituaient parfois le remède le plus efficace contre les profonds chagrins de l'esprit.
« Je ne sais plus que croire. »
avoua-t-il sur un ton là.
« J'ai vu le bien qu'il a fait partout. Il est une force puissante de liberté, il améliore la vie des gens. Il pourrait se construire une magnifique demeure remplie de richesses, de serviteurs, et on continuerait à le porter au nu. Mais il navigue, il livre bataille au transport d'esclaves, il libère les prisonniers. Étant donné tout cela, comment puis-je douter de sa grandeur d'âme ?»«
Mais tu doutes cependant, n'est-ce pas ?» Yémin soupira.
« Oui. « Je doute.
Parfois, la nuit, quand j'essaie de méditer, quand j'essaie de trouver ma place dans le monde, je n'arrive pas à ajuster le tout. »
Il repoussa ses cheveux mouillés et la regarda avec franchise. « Il y a quelque chose qui manque chez Kenith. Je le sens, mais je suis incapable de le définir. »
Une ombre de colère passa sur le visage d'Éta.
« Peut-être que ce qui manque, ce n'est pas chez lui, mais chez toi. » Peut-être perds-tu la foi lorsque la voix de ça te mène là où tu ne veux pas aller ?
Il fut abasourdi. Il ne se serait jamais attendu qu'elle lui adresse pareil reproche, et encore moins que ce reproche ait un tel accent de vérité. Elle poursuivit.
Kenith a ses défauts. Mais nous devrions considérer tout ce qu'il réussit à accomplir malgré ses propres doutes et souffrances.
Elle le dévisagea d'un œil accusateur.
Ou bien... crois-tu qu'un homme doit d'abord devenir parfait avant de pouvoir faire le bien ? La main de ça s'adapte à tous les outils,
marmonna-t-il.
Puis, quelques secondes après, il lâcha. « Mais pourquoi faut-il qu'il me prenne mon navire ? Et non seulement qu'il le prenne, mais qu'il le change en cette créature que je ne reconnais pas. Pourquoi faut-il qu'il tue ceux qui sont simplement venus nous chercher ? Je ne comprends pas, Eta. Je ne le comprendrai jamais. »
« Peut-être parce que tu as décidé de ne pas comprendre ?» Elle soutint fermement son regard. « J'ai lu dans un des livres que tu m'as donné que les mots façonnent la réalité. Regarde ce que tes mots viennent de faire. Tu as remodelé la réalité pour la transformer en une injustice qu'il a commise envers toi. Ton navire, tu dis. Vraiment ? A-t-il jamais appartenu à quiconque ? Où était-il un être vivant, emprisonné dans un corps étranger et qu'on s'est approprié ? Kenith l'a-t-il changé ou l'a-t-il simplement délivré pour lui permettre de devenir ce qu'il est vraiment ? Comment sais-tu qu'il a tué ceux qui sont venus te libérer, si telle était vraiment leur intention ? Pour l'instant, on ne sait rien. Pourtant, tu as déjà décidé que tu étais victime d'un préjudice. De cette manière, tu peux entretenir ta colère en te sentant justifié. Ce n'est pas mieux que de se complaire dans l'apitoiement sur soi. Sa voix devenait de plus en plus furieuse. Elle serra les lèvres et se détourna. Je voulais te faire part de quelque chose qui doit rester un secret entre nous. Maintenant, je m'interroge. Ne vas-tu pas d'une façon ou d'une autre en dénaturer le sens ? Il se borna à la regarder. Bien qu'il eût participé à sa transformation, les changements en elle ne laissaient pas de l'étonner. Elle ne lui sautait plus à la gorge quand il la contrariait. Elle n'en avait plus besoin. Sa langue était aussi acérée qu'une lame. Dès le premier jour, il avait reconnu son intelligence et respecté sa perspicacité et son courage. Aujourd'hui, il y avait de l'éducation derrière l'intellect et de la morale derrière le courage. Sa beauté en était magnifiée. Il tourna la paume en l'air sur la table en signe de capitulation. À sa grande surprise, elle se pencha en avant et y plaça sa main. Yema referma les doigts et elle sourit. Il n'aurait jamais cru qu'il soit possible à Eta d'être plus belle, mais son visage se mit soudain à rayonner. Elle se pencha davantage et souffla. « Je suis enceinte. Je porte l'enfant de Kenith. » Ces paroles fermèrent la porte au nez de Yema, l'exclure de la vie d'État et de sa lumière. Elle appartenait à Kenith. Elle avait toujours appartenu à Kenith, et elle lui appartiendrait toujours. Yema, lui, serait toujours seule. Je n'étais pas sûre au début, mais depuis une certaine nuit, j'en avais l'impression. Et aujourd'hui, quand il m'a renvoyé, ce qu'il n'avait jamais fait avant, j'ai cru qu'il y avait peut-être une raison. Alors je me suis assise là et j'ai fait l'expérience en tenant une aiguille au bout d'un fil au-dessus de ma paume. Le pendule a oscillé si violemment qu'il n'y a aucun doute. Il y a toute raison de croire que je porte un fils, un homme qui lui succédera. Elle retira sa main et la posa fièrement sur son ventre plat. Yema était paralysée de détresse. « Vous devez être très heureuse. » Et il se força à prononcer les mots, la gorge serrée par le chagrin. Le sourire d'Eta se ternit imperceptiblement. « C'est tout ce que tu trouves à me dire ?» C'était tout ce qu'il osait dire. Il valait mieux ne pas formuler ses autres pensées. Il se mordit la langue et la regarda dans un silence impuissant. Elle poussa un petit soupir et détourna les yeux. « J'avais espéré autre chose. » « C'est ridicule, sans doute. Mais Kenith t'a si souvent appelé son prophète que je... Ne ris pas. J'avais imaginé qu'en apprenant que je porte le fils du roi des îles des pirates, tu... Oh, je ne sais pas, tu dirais quelques mots qui prédiraient sa grandeur ou... » Sa voix s'éteignit. Elle rougit légèrement. « Comme dans les vieilles légendes, » réussit-il à articuler. « Une prédiction des merveilles à venir. » Elle se détourna, embarrassée soudain d'avoir rêvé de si grands rêves pour son enfant. Yema fit un vaillant effort pour écarter le gamin blessé au fond de lui et parler en homme et en prêtre. « Je n'ai pas de prophétie à vous révéler, Eta. Aucune prédiction envoyée par ça, pas de divination inspirée. Je crois que si cet enfant doit avoir un illustre destin, il héritera autant de vous que de son père. Je le vois en vous maintenant. » Quel que soit le regard qu'on portera sur votre enfant, il régnera toujours dans votre cœur. Vous discernerez ses qualités avant tout le monde, et vous saurez que sa plus grande noblesse consistera à être simplement lui-même.
Un enfant s'enracine dans l'acceptation de ses parents. Vous lui avez déjà fait ce don? Ses paroles émurent Etta autant qu'une prophétie. Elle rayonna de joie. Je suis tellement impatient de voir l'expression de Kenneth quand je lui apprendrai la nouvelle.
Yema respira profondément. La certitude l'envahit. Si ça l'avait jamais inspiré, c'était précisément aujourd'hui.
Je vous conseille de garder quelque temps la nouvelle pour vous. Il a beaucoup de soucis. Attendez le moment propice quand il aura vraiment besoin de l'apprendre. Tu as peut-être raison,
dit-elle avec regret. Yema doutait qu'elle tienne compte de son conseil. Le grain qui avait menacé toute la journée s'abattit sur eux. Parangon tourna le visage vers le ciel et goûta sa dernière pluie. La houle clapotait contre lui sans guère le secouer car sa lourde masse s'enfonçait de plus en plus. Les coups sur le panneau de cale s'affaiblissaient. Alimentés par l'huile, les feux que Kenneth avait allumés fumaient et empestaient dans la pluie mais continuaient à brûler.
Par intermittence, on entendait le fracas des appareaux brûlants qui cédaient et s'écrasaient sur le pont.
Il ne se souciait de rien. Il sombrait en lui-même en un lieu plus profond que le fond de l'océan.
À l'intérieur, Ambre pleurait. C'était pénible à supporter. Il ne s'était pas rendu compte qu'il la chérissait à ce point. Et Cliff, et Brashen, si fiers d'être son capitaine,
il repoussa résolument ses pensées. Il ne devait pas s'y abandonner maintenant. Le charpentier du navire avait rampé aussi loin que possible vers l'étrave sous le pont. Malgré la douleur que lui causaient ses brûlures, Ambre s'était traînée dans l'eau glacée qui noyait les cales. Si elle avait pu succomber au froid engourdissant, c'eût été une fin plus clémente. Mais elle vivait, s'accrochait à l'avant et parlait d'une voix éteinte. Il se cachait d'elle. Un serpent le heurta.
« Hé, imbécile, tu vas te laisser faire ?»
Le ton de la créature était dédaigneux.
« Réveille-toi, tu as autant le droit de vivre qu'elle !»«
J'ai aussi le droit de mourir !»
rétorqua Parangon. Puis il regretta d'être sorti de sa torpeur, car maintenant il était pleinement conscient des paroles angoissées d'Ambre.
« Parangon ! Parangon, je ne veux pas mourir, pas comme ça. Je n'ai pas achevé mon travail. Je t'en prie, navire, je t'en prie, ne fais pas ça. » Elle pleurait, et ses larmes le brûlaient aussi cruellement que le venin de serpent.
« On n'a pas le droit de mourir pour rien, »
déclara le serpent. Parangon reconnut sa voix. C'était lui qui s'était moqué de ses semblables quand il l'avait attaqué. Il heurta encore Parangon. C'était agaçant.
Mourir, c'est ce que je peux faire de plus utile pour Kenneth,
se rappela-t-il. Il s'efforça de reprendre son calme. Le serpent appuya la tête contre la coque qui gîtait et poussa fort.
Je ne parle pas de Kenneth. Je parle d'être utile à ton espèce. Foudre se vante d'être la seule à pouvoir nous guider au pays et à nous protéger. Je ne la crois pas. D'après mes souvenirs, il y avait beaucoup de guides et de protecteurs. Ce qu'un seul peut faire, deux peuvent le faire mieux, non? Pourquoi tient-elle à ce point te tuer pour plaire à ce Kenneth? Pourquoi d'abord vous souciez-vous de lui tous les deux?
C'est pour plaire à Kenneth? Qu'elle veut me voir mort ?
Les mots vinrent lentement à Parangon. Il ne pouvait leur conférer de sens.
N'était-ce pas la triste volonté de Kenneth ? Cela n'avait rien à voir avec Vivacia ou Foudre, comme elle se faisait appeler maintenant.
À moins qu'elle ne veuille Kenneth pour elle toute seule.
À moins qu'elle ne désire se débarrasser de Parangon pour n'avoir aucun rival. Peut-être Kenneth l'avait-il trompé ? Peut-être Kenneth voulait-il sa mort afin de pouvoir vivre avec Vivacia?
La pensée perfide le stupéfia.
« Va-t'en, la décision m'appartient. »
« Et qui es-tu pour décider ?»
insista le serpent.
« Parangon, je suis Parangon des luttes chances. »
Le nom était un talisman qui tenait en respect ses autres personnalités. Le serpent se frotta contre lui en une longue caresse peau contre coque.
« Et qui es-tu d'autre ? »
demanda-t-il. À l'intérieur de lui, Parangon sentit la pression soudaine des mains nues d'ambre.
« Non !»
leur cria-t-il à tous les deux.
« Non, je suis Parangon des Luttes-Sens, seulement cela !»
Mais du fond des ténèbres plus insondables que l'âme humaine, d'autres voix parlaient, et Ambre les écoutait. Althea ouvrit les yeux et attendit que se dissipe le mauvais rêve. Apparemment, elle était à bord de la Vivacia dans son ancienne chambre. L'aspect en était normal, mais elle avait l'impression d'une vague anomalie. Un souvenir du moissonneur se réveilla. Ce navire lui faisait le même effet. Du bois mort. Elle ne recevait aucune sensation de la vive nef. Elle se tendit, mais ne perçut que le mouvement du vaisseau. Avait-il pris le navire? À la barre, était-ce Brachen qui les ramenait au pays? Elle s'assit trop brusquement. Une violente quinte de toux la secoua. Un souvenir isolé fit surface comme un rêve. Étendue sur le pont de Vivacia, elle avait très froid, elle recrachait plein d'eau de mer. Le goût salé persistait dans sa bouche et lui brûlait le nez. C'était réel. Le pont sous elle était très dur, d'une dureté différente de celle du bois. Elle avait senti un refus dans les bordées sous ses mains. Jack avait été avec elle, mais n'était plus là. Ses cheveux étaient encore humides, donc il ne s'était pas passé trop de temps. À la fenêtre, le crépuscule d'hiver était encore assombri par une tempête déchaînée. Une lanterne dont la mèche était baissée était suspendue à un crochet. Elle resta immobile, tâchant de rassembler ses esprits. Les serpents avaient fait chavirer le canot, puis l'un d'eux en avait heurté le flanc. Ils avaient tous rebondi sur l'échine bombée du serpent. Elle se rappela les gifles des éclaboussures quand elle avait plongé. Elle s'était débattue sous l'eau, s'était débarrassée de ses bottes, mais la mer tirait sur le drap lourd de ses vêtements, et à chaque vague elle s'enfonçait un peu plus. Elle ne se souvenait pas que Jack l'avait rattrapée, mais elle était sûre que la grande femme était venue à son secours. Elles avaient été repêchées et avaient atterri sur le pont de Vivacia. Et maintenant, elle était ici. On l'avait vêtue d'une chemise de nuit d'homme en lin très fin, et de chaudes couvertures de laine lui enveloppaient les jambes. On s'était occupé d'elle avec bonté. Elle se raccrocha à ce signe. Les négociations de trêve avaient abouti. À l'heure qu'il était, Brachen était probablement à bord en train de parler avec le capitaine Kenneth, ce qui expliquerait pourquoi on ne l'avait pas ramenée sur le Parangon. Il fallait qu'elle s'habille et qu'elle aille les trouver, aussitôt après être allée voir la figure de proue. Elle avait été trop longtemps éloignée de son navire. Il lui suffirait certainement d'une explication avec Vivacia pour renverser l'obstacle qui les séparait. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle sans apercevoir ses vêtements. Il y avait cependant des chemises et des culottes pendues à des patères qui paraissaient à peu près de sa taille. Ce n'était pas le moment d'être timide. Elle remercierait plus tard celui qui lui avait prêté sa chambre et ses habits. Le second probablement. Les livres sur l'étagère témoignaient d'une certaine éducation. Son respect pour Kenneth s'accrut. La qualité d'un équipage en disait long sur le capitaine. Elle avait dans l'idée qu'elle s'entendrait bien avec le pirate. D'un geste habituel qui datait de son enfance à bord du navire, elle tendit les bras et plaqua ses paumes sur la poutre nue du bois sorcier au-dessus de sa tête.
« Vivacia, » dit-elle avec chaleur, « je suis de retour. Je suis revenue pour te ramener chez nous. »
Le choc la jeta brutalement sur le matelas. Étourdie, elle resta allongée à regarder le plafond. S'était-elle par hasard cogné la tête? C'était incompréhensible. Rien ne l'avait heurté, mais la sensation n'en était pas moins stupéfiante. Elle regarda ses paumes, s'attendant presque à les voir rougies.
« Vivacia ? »
fit-elle prudemment. Elle réessaya de sentir son navire, mais en vain. Elle s'arma de courage et tendit de nouveau les bras vers la poutre. Elle s'arrêta à une longueur de doigt. L'hostilité irradiait du bois comme la chaleur d'un feu. Elle appuya les mains.
Elle eut l'impression d'enfoncer les doigts dans de la neige tassée. Le froid brûlant avala ses doigts, les engourdit progressivement. Elle serra les dents et continua à appuyer.
« Vivacia !» dit-elle d'une voix grinçante. « Navire, c'est moi, Altea Vestrit. Je suis venue te chercher. »
La résistance à son contact ne fit que croître. Elle entendit une clé tourner dans la serrure et la porte s'ouvrit à la volée. Elle lança un regard à l'homme qui s'encadrait sur le seuil. Un homme de haute taille, beau, bien mis. Une bouffée de bois de santal pénétra avec lui dans la pièce. Il portait un plateau chargé d'un bol fumant. Il avait des cheveux noirs brillants et une moustache en croque. La dentelle blanche bouffait à sa gorge et aux manchettes, et un diamant que tous les élégants lui auraient envié étincelait à une oreille, mais les larges épaules de son manteau bleu de bonne coupe disaient assez son énergie. Il s'appuyait sur une béquille de cuivre et de bois ciré, un accessoire de choix plutôt qu'un appareil pour invalide. Ce devait être Kenith.
« Non, »
prévint-il. Il referma la porte derrière lui, posa le plateau sur la table et traversa la chambre en deux enjambées obliques.
« Arrêtez, j'ai dit. Elle ne fera que vous blesser. »
De ses mains fortes, il lui prit les poignets et les retira de la poutre. Elle se sentit tout à coup étourdie à la fois par l'effort et par le rejet engourdissant. Elle savait ce que Vivacia lui avait fait. La vive nef avait subtilement remué tous les doutes qu'Altea nourrissait sur elle-même et réveillé dans son esprit tous les souvenirs de confusion, d'égoïsme ou de bêtises dont le navire avait jamais été témoin. Contre toute logique, elle brûlait de honte devant la conscience qu'elle avait de son infériorité.
« Elle ne fera que vous blesser, »
répéta Kenith. Il ne lâchait pas ses poignets. Elle tenta de se dégager puis renonça. Il était fort. Mieux valait se conduire avec dignité que réagir comme une enfant contrariée. Elle rencontra ses yeux bleu pâle et lui adressa un sourire rassurant et attendit.
« Pourquoi ? »
demanda-t-elle.
« Pourquoi essaierait-elle de me faire mal ? C'est ma vive nef. »
Le sourire de Kenith s'élargit.
« Et je suis enchanté de faire votre connaissance, Altea Vestrit. Je présume que vous vous sentez mieux. »
Il l'examina avec franchise.
« Vous paraissez en meilleure forme que lorsque je vous ai repêché. Vous avez rejeté une quantité d'eau de mer sur mon pont tout propre. »
C'était un mélange bien dosé de remarques polies et ironiques pour lui rappeler les bonnes manières, sa situation et sa dette envers lui. Elle détendit les mains et il lâcha aussitôt ses poignets en les tapotant d'un geste rassurant. Elle s'empourpra.
« Je vous demande pardon, »
dit-elle très sincèrement.
« Je suppose que vous êtes le capitaine Kenith. Vous m'avez sauvé la vie et je vous en remercie. Mais voir mon navire me rejeter ainsi, c'est... »
Elle chercha le mot.
« Extrêmement désolant, »
conclut-elle gauchement.
« Oh, c'est affreux, évidemment. »
Il tendit le bras avec désinvolture et appliqua doucement sa paume sur le bois gris-argent.
« Pour vous deux, il faut vous laisser mutuellement du temps. Vous n'êtes certainement plus la même qu'à l'époque où vous étiez à bord de cette vive nef, et ce doit être vrai aussi pour elle. »
Il ajouta à mi-voix en baissant le bras.
« Aucun être tant soit peu sensible n'aurait pu endurer ce qu'elle a enduré sans en être changé. »
Il se pencha plus près et reprit dans un murmure.
« Laissez-lui le temps. Prenez le temps de l'accueillir et de l'accepter telle qu'elle est. Et soyez indulgente envers sa colère. Son ressentiment est bien ancré et justifié. »
Son haleine chaude était parfumée aux clous de girofle. Sans cérémonie, il s'assit sur le lit à côté d'elle.
« Pour le moment, dites-moi, vous vous sentez mieux ?»«
Beaucoup mieux, merci. Où est Jack, la femme qui était avec moi ?» Brachen est à bord? Les serpents ont fait beaucoup de dégâts au parangon? Comment les avez-vous chassés? Mon neveu Yémin est vivant, il va bien?
Chaque question en entraînait une autre. Kenith se pencha et posa deux doigts sur ses lèvres. Elle se rétracta à ce contact, puis le toléra, se persuadant que le geste était anodin.
« Chut !»
dit-il doucement.
« Chut !» Pas tout à la fois. Vous ne devriez pas vous agiter ainsi. Vous en avez vu de rudes aujourd'hui.
Jack dort à point fermé.
Elle a dû être frôlée par un serpent. Elle a une jambe et les côtes brûlées, mais je suis convaincu qu'elle s'en remettra très vite.
Je lui ai donné du sirop de pavot pour la douleur. Pour l'instant, je propose qu'on ne la dérange pas.
Une question troublante vint soudain à l'esprit d'Althea.
Alors, qui s'est occupé de moi? Qui m'a mise au lit?
Elle porta machinalement la main au col de sa chemise de nuit.
C'est moi.
Il parlait tranquillement, sans la regarder. Un sourire qu'il bridait jouait aux commissures de ses lèvres.
Je pouvais difficilement confier cette mission à mes matelots, et il n'y a pas de femme à bord.
Elle se sentit rougir.
Je vous ai apporté quelque chose.
Il se leva et ajusta la béquille sous son aisselle. Il traversa la pièce, prit le plateau et le rapporta à son chevet. Malgré son unique jambe, il se déplaçait avec la grâce chaloupée du vrai marin.
Elle se poussa pour faire de la place. Il posa le plateau sur le lit et s'installa à côté.
« C'est du vin et de l'eau-de-vie avec des épices. C'est une vieille recette de partage, très revigorante et roborative, et efficace contre la douleur. Goûtez pendant que je parle. C'est meilleur quand c'est chaud. »
Elle leva le bol à deux mains. Les vapeurs étaient en elles-mêmes réconfortantes. Des épices brunes tourbillonnaient au fond du liquide ambré. Elle porta le bol à ses lèvres et avala une petite gorgée. La chaleur se répandit en elle, dénoua ses muscles tendus. Un frisson soudain la parcourut et lui donna la chair de poule, comme si son corps laissait seulement à cet instant s'échapper le froid de la mer.
« À la bonne heure !» dit Kenneth sur un ton engageant. « Voyons. Yémin n'est pas à bord pour le moment. Il sert sur la Marietta sous les ordres de Sorcor, mon second. J'ai découvert qu'en changeant de navire un élément prometteur, en lui confiant différentes responsabilités, on l'encourage à développer ses qualités de marin et sa capacité à penser par lui-même. Vous vous êtes sans doute aperçu que vous occupez sa chambre et son lit. Ne vous inquiétez pas pour ça. Il est parfaitement bien là où il est et je sais qu'il ne vous en voudra pas, au contraire.
« Merci, » dit-elle prudemment.
Elle essaya de rassembler ses idées. Kenneth considérait manifestement que Yémin lui appartenait, qu'il fallait l'habituer à exercer de lourdes responsabilités comme un fils dans une affaire de famille. Elle n'avait jamais envisagé cette situation et elle ne savait pas comment réagir.
« C'est aimable à vous de lui fournir ces occasions, »
s'entendit-elle déclarer. Une partie d'elle-même fut saisie par ces mots.
« Aimable à lui de fournir à Yémin l'occasion de devenir un meilleur pirate ?»
Elle tâcha de mettre de l'ordre dans ses pensées.
« Il faut que je vous demande ceci. Comment Vivacia réagit-elle au fait que Yémin soit parti? Ce n'est pas bon pour une vive nef de rester longtemps sans un membre de sa famille à bord.
Je vous en prie, buvez pendant que c'est chaud. »
Elle obéit et il baissa les yeux vers le lit comme s'il craignait que sa réponse ne lui déplaise.
« Vivacia va très bien. Yémin ne lui manque pas tant que ça. Il m'a, moi, vous comprenez ?»
Il leva le bras pour caresser une nouvelle fois les poutres gris-argent.
« J'ai découvert que la famille n'est pas aussi importante pour une vive nef qu'une âme sœur. Vivacia et moi partageons de nombreuses qualités. L'amour de l'aventure, la haine du trafic d'esclaves, un désir de...
« Je crois que je connais mon navire, »
interrompit-elle.
Le regard bleu clair de Kenneth prit une expression de doux reproche. Elle recommença à boire pour cacher son embarras. La chaleur de l'alcool se répandait en elle et la détendait. Une vague de vertige la submergea. Elle sentit les mains de Kenneth redresser le bol qu'elle tenait.
« Vous êtes plus fatigué que vous ne le croyez, » dit-il avec sollicitude. « Vous êtes resté un bon bout de temps dans une eau très froide. Et voilà qu'en plus mes paroles maladroites vous ont troublé. C'est difficile pour vous de faire front. Peut-être pensiez-vous sauver votre navire et votre neveu, mais vous avez découvert que vous les arracheriez à un univers qu'ils aiment. Je vous en prie, reposez-vous un peu avant que nous reparlions de tout ceci. » Vous êtes épuisé, vous voyez les choses en noir. Yéma est fort et heureux, et convaincu qu'il a décelé la voie que ça lui destinait. Le navire est avide de pourchasser les transports d'esclaves. Il apprécie la vie aventureuse que nous menons. Vous devriez vous réjouir pour eux. Vous vous trouvez en sécurité à bord de votre vive nef. À compter de ce moment, ça ne fera qu'aller mieux pour vous.
Elle but jusqu'à ce que les épices touchent ses lèvres. Il lui retira le bol des mains et la retint car elle vacillait. Il sentait bon, le bois de santal, le clos de girofle. Elle posa la tête sur l'épaule de la belle veste bleue. La dentelle lui chatouilla le visage. La dentelle, voilà qui irait bien à Brashen, et une veste comme celle-là. J'aime bien la dentelle pour un homme, fit-elle remarquer. Kenneth se racla la gorge. Elle se sentit rougir.
« J'ai le vertige, »
s'excusa-t-elle en essayant de se redresser.
« Je n'aurais pas dû boire aussi vite. Ça m'est monté tout droit à la tête. »«
Non, non, ce n'est rien. Vous exigez trop de vous-même. Là, allongez-vous. »
En vrai gentilhomme, il cherchait à la distraire de son embarras. Il sauta à cloche-pied de la couchette et lui redressa son oreiller. Elle se rallongea docilement. La cabine tournait autour d'elle.
« C'est la tempête qui se prépare ?»
demanda-t-elle anxieusement.
« Pour nous autres, dans les îles des pirates, ce n'est qu'un grain. Nous en sortirons bientôt. Nous allons mouiller dans une crique abritée et laisser passer. Ne vous inquiétez pas. Vivacia en a vu d'autres. »«
Je sais, je me souviens. »
Elle croyait qu'il allait s'en aller. Mais il revint à son chevet. Les souvenirs se bousculaient dans sa tête, les souvenirs d'un autre homme, grand et brun, debout, près de sa couchette. Son père avait traversé avec Vivacia bien des tempêtes. Quand elle était petite, ce navire était l'endroit le plus sûr au monde. La Vivacia, c'était l'univers de son père, où elle maîtrisait tout et faisait en sorte qu'il ne lui arrive rien de mal. Elle était en sécurité. Tout irait bien. Un homme fort commandait le navire, une main ferme à la barre. Ses paupières alourdies se fermèrent. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas éprouvé ce sentiment de parfaite sécurité. Debout, Kenneth la regardait. Ses cheveux humides frisaient emmêlés sur l'oreiller. Les cils sur ses joues n'étaient pas aussi longs que ceux de Yéma, mais même de très près, la ressemblance était troublante. Il remonta les couvertures et l'aborda soigneusement. Elle ne bougea pas. Rien d'étonnant. Il avait déjà expérimenté sur Jack le mélange de pavot et de mandragore dans l'eau-de-vie. Elle allait dormir profondément. Et il aurait le temps de réfléchir à son rôle et aux réponses qu'il donnerait aux questions d'Althea. Parangon avait péri corps et biens. Bien désolant. Les serpents avaient attaqué pour riposter aux flèches de Brashen. Cela pouvait marcher à condition qu'elle ne parlât à aucun membre d'équipage. Pouvait-il la garder isolée sans éveiller ses soupçons? Il allait être difficile de concocter des mensonges pertinents, mais il trouverait bien des idées. Il s'attarda à la regarder. C'était Yéma avec un corps féminin. De son index, il suivit la courbe de sa joue, l'arc de ses sourcils, les ailes de son nez. La souche marchande de Terrilville, bien née, bien élevée. Il était impossible de se tromper sur sa race. Il se pencha et baisa les lèvres souples et chaudes. Sa bouche sans réaction l'excita. Elle avait le goût des épices et de l'alcool. Il pouvait la prendre là, tout de suite, s'il le voulait. Personne ne le saurait. Elle-même ne s'en rendrait peut-être même pas compte. Cette idée amusante amena sur ses lèvres un vrai sourire. Et il commença à déboutonner le haut de sa chemise. Sa propre chemise de nuit, c'était comme s'il se déshabillait lui-même. Elle respirait profondément et régulièrement.
« Tu la désires seulement parce qu'elle ressemble au gamin. » dit le charme sur un ton railleur. La méchante voix rompit le calme de la pièce.
Kenneth se figea. Il lança un regard mauvais à la malfaisante amulette. Les petits yeux le fixaient, étincelants. Y avait-il vraiment des étincelles bleues dans le bois sculpté, ou était-ce un effet de son imagination? La bouche finement dessinée eut une moue de dégoût.
« Et tu désires le gamin seulement parce qu'il te rappelle trop celui que tu étais à son âge. Mais en réalité, tu étais beaucoup plus jeune quand Ygrotte t'a traîné dans son lit. »«
La ferme !» siffla Kenith. Ses souvenirs étaient interdits. Ils avaient tous sombré avec Parangon. Pourquoi avoir fait tout cela sinon pour les détruire, ces souvenirs ? Que le charme profère ses paroles et tout était compromis, tout. Il savait maintenant qu'il faudrait le détruire.
« Ça ne servira à rien, » fit-il moqueur. « Détruis-moi et foudre saura pourquoi. Mais je vais te dire ceci. Prends cette femme contre sa volonté et le navire tout entier saura pourquoi tu la voulais. J'y veillerai. » Et je veillerai à ce que Yémin en soit le premier informé.
« Pourquoi ? Que veux-tu de moi ?»
demanda Kenith dans un chuchotement enragé.
« Je veux qu'Éta revienne sur ce navire. Et Yémin, j'ai mes raisons. Je te préviens, Foudre et moi nous trouverons le viol parfaitement détestable. Chez les dragons, ça ne se fait pas. »
« Un petit bout d'amulette. » Pas plus gros qu'une noix qui prétend être un dragon.
On n'a pas besoin d'avoir la taille d'un dragon pour avoir une âme de dragon. Bas les pattes.
Kenith s'exécuta avec lenteur. Il se redressa, prit sa béquille et déclara.
Je n'ai pas peur de toi. Quant à Althea, je l'aurai. Elle sera consentante, tu verras.
Il poussa un long soupir.
Le navire, la femme. Le garçon, tout sera à moi.
Comment a-t-elle su ?
Se demandait Parangon avec désolation.
Comment Ambre avait-elle su où poser exactement ses mains pour les atteindre tous ceux qui faisaient partie de lui ? Ses doigts nus étaient plaqués sur son bois, et elle était ouverte à lui maintenant.
S'il l'avait voulu, il aurait pu se tendre vers elle et sonder tous ses secrets. Mais il ne désirait pas en savoir davantage sur elle.
Il voulait seulement qu'elle renonce et qu'elle meure en paix. Pourquoi se refusait-elle à faire cela pour lui? Il avait toujours été son ami. Mais elle l'ignorait maintenant. Elle se tendait au-delà de lui pour parler aux autres qui partageaient son bois. Elle lui parlait, mais c'était eux qui écoutaient, et leur attention résonnait en lui, faisait vibrer son âme. « Il faut que je vive !» suppliait-elle. « Il n'y a que toi qui puisses m'aider. J'ai encore tant de choses à faire dans ma vie, je t'en prie. S'il faut passer un marché, dis-le-moi. Demande-moi n'importe quoi, et si c'est en mon pouvoir, c'est à toi. Mais aide-nous à vivre. Referme tes coutures. Empêche l'eau de rentrer, laisse-moi vivre !»« Ambre ! Ambre !»
Contre toute sagesse, il lui parla.
« Je t'en prie, laisse faire, ne bouge pas, tais-toi, nous mourrons ensemble. »« Navire, Parangon, pourquoi ? Pourquoi faut-il que nous mourions ? Qu'est-ce qui a changé ? Pourquoi fais-tu cela ? Pourquoi ne pouvons-nous vivre ?» Elle ne comprendrait jamais. Il savait que c'était stupide, mais il essaya tout de même. « Les souvenirs doivent mourir. » S'il n'y a plus personne pour se les rappeler, alors il pourra vivre comme si rien n'était arrivé. Donc, Kenith m'a donné ses souvenirs, et je devais mourir avec eux, de façon que l'un de nous puisse vivre libre.
Ils écoutaient tous les deux. Le majeur prit soudain la parole. Ses pensées résonnèrent à travers sa moitié de la coque.
« Cela ne marche pas comme ça. Réduire les souvenirs au silence ne les fait pas cesser d'exister. On ne peut pas annuler les faits en les oubliant. »
Il perçut le saisissement d'Ambre. Elle chercha vaillamment à le surmonter. Elle lui parla comme si elle n'avait pas senti le majeur.
Pourquoi Kenneth te fait-il cela? Comment peut-il? Qu'est-ce qu'il est pour toi?
Il est de ma famille.
Parangon fut incapable de dissimuler son amour pour le pirate.
C'est un Lutchance comme moi, le dernier de sa lignée, né dans les îles des pirates. Le fils du marchand de Terrilville a épousé une femme des îles des pirates. Kenneth est leur enfant, son fils, son prince et mon compagnon de jeu. Le seul qui m'ait aimé enfin pour moi-même.
Tu n'es pas un Lutchance,
interrompit le majeur.
Nous sommes des dragons.
Oui, nous sommes des dragons. Et nous voulons vivre.
C'était le mineur qui avait réussi à insinuer une pensée à lui.
Silence,
intima le majeur qui l'étouffa. La bande de parangons s'était accentuée pendant que le majeur assurait sa domination.
Qui es-tu?
S'inquiéta Ambre, confuse.
Parangon, pourquoi y a-t-il des dragons en toi?
Le majeur se mit à rire. Parangon se garda bien de répondre.
« Je vous en prie, »
supplia Ambre en s'adressant à eux tous.
« Je vous en prie, aidez-nous à vivre. »«
Mérites-tu de vivre ?»
demanda le majeur.
Il s'exprimait par la bouche de Parangon avec la voix de Parangon. Il avait pris possession de la figure de proue et tonitruait dans le vent. Peu lui importait qu'Ambre ait perçu sa pensée à travers ses mains. Il parlait ainsi pour prouver au navire à quel point il était devenu fort.
« Si tu le méritais, tu verrais qu'il est en notre pouvoir de vous sauver tout de suite. Mais si tu es trop stupide pour comprendre comment, je crois que nous devrions tous mourir ici, ensemble. »«
Dis-lui
comment ?»
plaida le mineur.
« Notre heure est venue. Notre heure est revenue. » Et tu vas nous laisser mourir à cause de la bêtise d'un humain? Non, dis-le-lui, qu'elle nous sauve afin que nous puissions continuer.
Tais-toi, faiblard, tu as trop longtemps fréquenté les humains. Les forts survivent. Enfermés comme nous le sommes dans ce corps, nous serons bien mieux morts si les humains à bord sont des imbéciles. Alors qu'elle nous montre qu'elle peut nous donner une raison de vivre. Si elle arrive à comprendre comment vivre, nous la laisserons nous redonner la vue. Nous serons un parangon, mais pas un parangon des Lutchances. Parangon des dragons, deux en un.
« Et moi alors ?»
s'écria sauvagement Parangon. La pluie ruisselait sur son visage aveugle et sa poitrine. Il empoigna sa barbe et l'attira farouchement.
« Mais à moi alors ?»«
Sois avec nous, »
dit le majeur.
« Ou ne sois pas. Tu n'as pas d'autre choix. Le serpent a dit vrai. Nous avons encore un devoir à remplir, et aucun dragon ou dragon navire n'a le droit de nous le dénier. Nous pouvons ne faire qu'un. Sois un avec nous ou disparais. »
« Nous sommes en train de mourir !»
s'écria Ambre. Sa voix était faible, enrouée par la fumée qu'elle respirait.
« Le feu brûle en haut, et l'eau remplit la cale. Comment puis-je vous sauver, me sauver moi-même ?»«
Réfléchis !»
lui ordonna le majeur.
« Prouve-nous que tu le mérites !»
Ambre se ressaisit. Elle se tendit de toutes ses forces vers le majeur, comme si elle voulait lui dérober ce qu'il fallait savoir. Puis elle fut secouée par une quinte de toux. À chaque spasme, ses brûlures la taraudaient. La quinte s'apaisait quand Parangon perdit la conscience qu'il avait d'elle. Il la sentit s'effacer jusqu'à la transparence, puis jusqu'au néant. Il en éprouva à la fois du chagrin et du soulagement. Le poids de l'eau le tirait vers le fond. La houle avait grossi. Bientôt les lames submergeraient ses ponts. Les feux s'éteindraient, tandis que les vagues l'entraîneraient par le fond, mais c'était bien. Le feu et la fumée avaient accompli leur œuvre. Alors, comme une flèche qui fait mouche, Ambre fut soudain à l'intérieur de lui.
elle hoquetait en plongeant très profond dans les souvenirs de la race des dragons. Parangon la sentit perdre pied, écrasée par la chaîne interminable des souvenirs, ballottée du dragon au serpent, remontant loin jusqu'au tout premier œuf. Elle ne pouvait tout retenir. Il l'aperçut se noyant dans les souvenirs. Elle se débattait vaillamment, cherchant à saisir ce que le majeur lui taisait alors qu'il laissait ses souvenirs l'inonder.
« Ce n'est pas dans ma mémoire, mais dans la tienne, petite sotte !»
lui dit-il. Il assistait à sa lutte comme on regarde la sève d'un arbre qui s'écoule sur une fourmi prisonnière. Elle s'arracha de lui comme elle se serait arraché les mains. Parangon la sentit tomber, comprit qu'elle tentait de respirer, asphyxiée par la fumée. Elle recommença à disparaître, à glisser dans l'inconscience. Puis, lentement, elle redressa la tête.
« Je sais ce que c'est !»
annonça-t-elle.
« Je sais comment nous sauver. Mais je n'achèterai pas ma vie aux dépens de Parangon. Je nous sauverai si vous me faites une promesse. Vous ne serez pas deux en un, mais trois. Parangon doit rester en vous. »
Il percevait sa peur qui s'écoulait d'elle avec sa sueur. Elle l'expulsait à chaque souffle. Il était ahuri que quelqu'un soit prêt à mourir plutôt que le trahir.
« Marché conclu !»
déclara le majeur. Un léger filet d'admiration miroitait dans ses paroles.
« Celle-là a un cœur digne d'être la partenaire d'un navire dragon. Maintenant, qu'elle nous prouve qu'elle a aussi de la tête. »
Parangon perçut les efforts que faisait Ambre pour se lever, mais elle avait épuisé ses dernières forces. Elle retomba contre lui. Pour elle, il essaya de refermer ses coutures. Impossible. Les dragons l'en empêchaient. Alors il lui transmit autant de force qu'il le put, la déversant de son bois dans le corps frêle qui reposait contre lui. Elle leva la tête dans l'obscurité envahie de fumée.
« Cliff !»
s'écria-t-elle. L'immense effort qu'elle déploya n'aboutit qu'à un faible appel.
« Cliff !»
« Allez, du nerf, tonnerre !»
hurla Brashen. Puis il fut pris d'une quinte de toux. Il laissa le bélier de fortune retomber sur le pont. Les hommes qui l'aidaient à cogner sur le dessous du panneau de cale s'effondrèrent à côté de lui. Les coutilles au-dessus ne cédaient pas et le temps pressait. Il repoussa sa peur panique. Le bois sorcier ne prenait pas feu facilement. Il restait encore un peu de temps. Il restait encore une chance d'en réchapper s'il persévérait.
« Ne mollissez pas avec la pompe. Mourir noyé, ce n'est pas mieux qu'être brûlé vif. »
À son ordre, il entendit l'équipe à la pompe se remettre au travail, mais la cadence manquait d'entrain. Trop de pertes, trop de blessés. Le navire était animé de bruits sinistres. Les pompes de cale, les gémissements des blessés, le léger crépitement des flammes en haut. L'eau de la sentine montait avec la puanteur. Plus Parangon embarquait d'eau, plus la bande augmentait. La fumée qui s'infiltrait dans la cale s'épaississait. Le temps pressait.
« Tout le monde au bélier !»
Trois hommes se relevèrent en chancelant et empoignèrent la poutre. À ce moment, Brashen fut distrait par quelqu'un qui le tirait par la manche. Il baissa les yeux et découvrit Cliff. Le gamin avait son bras blessé recroquevillé sur son ventre.
« C'est Ambre, Captain !»
Il était tout pâle de souffrance et d'effroi à la lueur malsaine de la lanterne. Brashen secoua la tête. Il frotta ses yeux qui le piquaient et pleurait.
« Fais ce que tu peux pour elle, mon garçon. Je ne peux pas venir pour l'instant, je dois continuer avec ça. »«
Non, c'est un message, Captain. Elle dit qu'il faut essayer l'autre panneau, celui dans votre cabine. »
Il fallut un moment à Brashen pour saisir les paroles de Cliff. Puis il cria
« Venez, apportez le bélier !»
Il décrocha d'un geste brusque une lanterne et s'éloigna en titubant sans regarder si on le suivait. Il maudit sa bêtise. Quand Ambre avait logé à bord de Parangon échoué sur la plage, elle avait occupé la chambre du capitaine et avait entreposé ses outils dans la cale. Pour plus de commodité, elle avait pratiqué une trappe dans le plancher. Brashen et Althea avaient été scandalisés quand ils l'avaient découverte. Ambre avait réparé le plancher, l'avait ajusté par en dessous et bien chevillé. Mais les fixations étaient accessibles à leur niveau. Les panneaux de cale avaient été conçus pour résister aux assauts de la mer, mais la trappe dans la chambre n'était que clouée et moisée.
L'espoir de Brachen diminua quand il leva les yeux vers les réparations du pont au-dessus de lui. Ambre était un bon charpentier, consciencieuse dans son travail. La gîte du navire rendait la besogne difficile. Il était en train de pousser une caisse quand il fut rejoint par ses hommes. Avec leur aide, il empila des caisses et des barils, puis y grimpa pour examiner le plancher au-dessus de lui. Cliff lui passait les outils. Avec un marteau et un pied de biche, Brachen arracha les fixations. Au niveau du plafond, la fumée était plus dense. À la lueur de la lanterne, il aperçut les volutes grises qui s'infiltraient par les coutures des bordages du pont. S'ils arrivaient à sortir, ils trouveraient peut-être le feu. Il n'hésita pas.
« Allez-y avec le bélier, les gars !»
ordonna-t-il en s'écartant.
Leur élan manquait de force, mais au quatrième coup, Brachen vit les planches fléchir. Il fit signe aux hommes de s'écarter, ils reculèrent en toussant au bord de l'asphyxie. Brachen grimpa sur la plateforme et martela le bois qui le séparait du salut. Les planches de la trappe cédèrent brutalement et dégringolèrent autour de lui en le meurtrissant. La lueur jaune des flammes éclaira les visages barbouillés en dessous de lui. Il sauta, s'agrippa au bord de l'orifice et se hissa. La cloison de la chambre brûlait, mais le feu ne s'était pas étendu à l'intérieur.
« Montez !»
cria Brachen avec ce qui lui restait de force.
« Sortez de là pendant qu'il est encore temps !»
Cliff était déjà près du trou. Brachen l'empoigna par son bras valide et le tira. Il gagna le pont, le gamin sur ses talons. Il fut douché par une pluie glacée. D'un rapide coup d'œil, il constata que Parangon était seul dans l'eau. Un unique serpent blanc tournait avec curiosité autour du navire. La pluie battante était une auxiliaire puisqu'elle noyait le feu, mais à elle seule, elle n'y suffirait pas. Les flammes continuaient de lécher le grand mât et couraient furtivement le long du rouf. Le gréement effondré abritait de petites poches de tison et de toile ardent. Brachen dégagea le panneau de cale des braises, le décoinça et l'ouvrit à toute volée.
« Montez par là !»
cria-t-il.
« Tout le monde sur le pont, sauf l'équipe de pompe, débarrassez !»
Il dut s'interrompre pour tousser et dégager ses poumons. Les hommes commencèrent à se hisser sur le pont. Le blanc des yeux ressortait de façon saisissante sur les visages noircis de suie. Des gémissements et des toux s'échappaient de la cale.
« Dégagez tout ce qui brûle ! Aidez les blessés à sortir sur le pont, qu'ils puissent respirer !»
Il se retourna, se fraya un chemin parmi des débris calcinés. Il jeta par-dessus bord des cordages emmêlés et un morceau d'espars qui brûlait allègrement. Le déluge glacé était aussi aveuglant que la fumée en bas, mais au moins l'air était respirable. À chaque souffle qu'il exhalait, ses poumons se purgeaient. Il atteignit le gaillard d'avant.
« Parangon, referme tes coutures! Pourquoi essaies-tu de nous tuer? Pourquoi ?»
La figure de proue ne répondit pas. La clarté capricieuse des flammes dansait sur son visage. Parangon regardait droit devant lui dans la tempête. Ses bras étreignaient sa poitrine. Les muscles noués de son dos trahissaient son attitude crispée. Le serpent blanc émergea devant eux. Il inclina sa tête à crinière et fixa de ses étincelants yeux rouges la figure de proue. Il chantait à l'adresse du navire, mais n'obtenait pas de réponse. Cliff déclara soudain derrière lui.
« J'ai allé chercher Ambre. Elle est plus en danger. »
Personne n'était encore hors de danger.
« Parangon, referme tes coutures !»
hurla Brachen. Cliff le tira par la manche. Le capitaine baissa les yeux sur le petit visage perplexe.
« Il l'a déjà fait, vous sentez pas ?»«
Non. »
Brachen agrippa la lisse, chercha à entrer en contact avec la figure de proue. Rien.
« Je ne le sens pas du tout. »«
Moi, si. Je les sens tous les deux. »
dit un Cliff énigmatique. Il ajouta bientôt
« Étalez, cap !»
Avec une étonnante brusquerie, le navire se redressa. Le clapotement des eaux de la Sentine fit tanguer le pont. Brachen entendit derrière lui éclater de partout des jurons de stupéfaction, mais il sourit dans l'obscurité. Il flottait bas sur l'eau, mais d'aplomb. Et si Parangon avait refermé ses coutures et qu'on continuait à actionner les pompes, si la tempête ne forcissait pas, il pourrait en réchapper.
« Navire, mon navire, je savais que tu ne nous laisserais pas mourir. »
C'était pas lui? Enfin, pas tout à fait.
Le garçon baissa la voix jusqu'à marmonner.
C'est eux et lui. Les dragons.
Brashen rattrapa le gamin qui allait s'affaisser sur le pont.
Ça fait un bout de temps que je rêve d'eux. Je croyais que c'était juste un rêve.
Remonte-les!
Aboya Kenit à l'adresse de Yola. Il regarda irrité Yémin et Eta qu'on amenait à bord. Le dépit menaçait de le dévorer. Il avait mouillé dans cette crique pour attendre la fin du grain et décider quoi faire. Il lui faudrait peut-être changer son plan initial et renoncer à rejoindre Partage. Il avait espéré avoir plus de temps seul avec Althea sans même parler de foudre.
« Je ne vous ai pas envoyé chercher !»
déclara-t-il à Eta d'un ton froid alors qu'elle embarquait. Elle ne parut pas impressionnée par le reproche.
« Je sais. J'ai pensé profiter de l'embellie pour revenir. »
« Que je l'ai ordonné ou non !»
fit remarquer Kenit aigrement. Elle s'arrêta sans le toucher, visiblement perplexe. Elle dit d'une voix peinée
« Il ne m'est pas venu à l'idée que tu ne désirais pas mon retour ?»
Yola le regarda bizarrement. Kenit était bien conscient que ces hommes affectionnaient Eta et qu'ils avaient idéalisé ses relations avec la putain. La situation présente étant à ce point incertaine, à quoi bon les troubler et troubler Eta?
« Sans se soucier des risques que tu prends ?»
corrigea-t-il sèchement.
« Va dans la cabine, tu es trempé, Yéma aussi. J'ai des nouvelles à vous apprendre. »
Kenit fit demi-tour et les précéda. Qu'ils soient maudits tous deux pour l'avoir forcé à se hisser sur le pont sous cette pluie glacée. Son moignon commençait à les lancer. Quand il atteignit sa chambre, il se laissa tomber dans le fauteuil et lâcha sa béquille. Eta, ruisselante, la ramassa machinalement et la rangea à sa place dans le coin. Il les regarda dans un silence désapprobateur tandis qu'ils enlevaient leurs vêtements trempés.
Bon. « Alors vous voilà. Pourquoi ?»
dit-il sur un ton de défi avant qu'ils aient pu ouvrir la bouche. Il leur donna à peine le temps de rassembler leurs idées, et alors que Yémin prenait son souffle, il le devança.
« Pas la peine de répondre. Je le vois sur vos figures. Après tout ce que nous avons traversé, vous continuez à douter de moi ?»«
Kenit !»
s'écria Eta sincèrement consterné. Il dédaigna la protestation.
« Qu'est-ce qui vous paraît si suspect en moi? Mon jugement, mon honneur ?»
Son visage se contracta sous l'effet d'un amer remords.
« J'ai bien peur que vous n'ayez raison. J'ai montré un piètre jugement quand j'ai fait cette promesse à Yémin, et j'ai failli à mon honneur envers mon équipage en lui faisant courir des risques pour tenir cette promesse. »
Il adressa à Yémin un regard perçant.
« Ta tante est vivante. Elle est à bord. Elle dort dans ta cabine. Arrête !»
ordonna-t-il alors que Yémin se levait précipitamment.
« Tu ne peux pas aller la voir maintenant. Elle a eu froid, elle a été très éprouvée par son séjour prolongé dans l'eau. Elle a pris du pavot. C'est la moindre des choses que de ne pas la déranger. Malgré l'hostilité dont a fait preuve le parangon à notre égard, je m'en tiendrai quant à moi au respect du drapeau blanc. »
Il reporta le regard sur Eta.
« Et vous, madame, vous resterez à l'écart d'Althea Vestrit et de sa guerrière des six duchés. Je crains qu'elle ne soit dangereuse pour toi. La Vestrit fait de jolis discours, mais qui sait quelles sont ses intentions réelles ?»«
Ils nous ont approchés avec le drapeau parlementaire et ils ont attaqué ?»
demanda Yémin incrédule.
« Ah, alors tu as regardé, hein ?» Ils ont provoqué nos serpents en leur lançant des flèches. Ils ont pris la retraite des serpents pour une fuite. Alors ils se sont enhardis et nous ont défiés directement. Finalement, nous l'avons emporté. Malheureusement, on a perdu une prise précieuse.
Il secoua la tête.
Le navire était décidé à périr.
Le récit était suffisamment vague pour qu'il puisse en modifier les détails plus tard, si besoin était. Si Yémin doutait. Pour le moment, le gamin était blême et contraint.
Je ne savais pas,
commença-t-il maladroitement, mais Kenneth le fit taire d'un geste sec.
Bien sûr que tu ne savais pas. Parce que tu n'as rien appris de mes leçons. J'ai cédé à mes sentiments pour toi, et je t'ai fait des promesses qui m'ont coûté cher. Eh bien, j'ai tenu parole. Le navire n'est pas content, j'ai risqué la vie de mes hommes, et on a perdu une prise rare. Mais j'ai tenu parole, Yémin. Comme Éta m'en avait prié. Malheureusement, cela ne vous fera plaisir ni à l'un ni à l'autre,
conclut-il sur un ton là. Il les regarda tour à tour et secoua la tête, écœuré par sa propre stupidité.
J'ai la bêtise d'espérer que vous vous plierez à ma volonté en ce qui concerne Altea Vestrit. Tant que je n'ai pas mesuré la menace qu'elle représente pour nous, je souhaiterais la garder isolée. Bien traitée, mais isolée à la fois du navire et de l'équipage. Je n'ai pas envie de la tuer, Yémin. Mais je ne peux pas non plus risquer qu'elle découvre l'accès secret à Partage, ni qu'elle sape mon autorité auprès du navire. Sa simple présence dans ces eaux a suffi, dirait-on, pour que tu te retournes contre moi.
Il secoua la tête d'un air abattu.
Je n'aurais jamais cru que tu serais aussi prompt à douter de moi. Jamais.
Il alla jusqu'à enfouir la tête dans ses mains. Les coudes sur les genoux, il se ploya, affectant le chagrin. Il avait entendu le pas léger d'Éta qui s'approchait, mais fit semblant de sursauter quand elle posa les mains sur ses épaules.
« Kenneth, je n'ai jamais douté de toi, jamais. Si tu juges que c'est préférable, je retournerai sur la Marietta jusqu'à ce que tu m'envoies chercher.
Quoique j'ai horreur d'être séparé de toi. » « Non, non. »
Il se força à lui tapoter la main.
« Maintenant que tu es ici, tu peux aussi bien rester. » À condition que tu évites soigneusement Altea et sa compagne.
Si c'est ce que tu désires, je ne discuterai pas.
En ce qui me concerne, tu as toujours eu raison.
Elle marqua une pause.
Et je suis sûr que Yéma est d'accord avec moi,
souffla-t-elle au garçon infortuné.
Je voudrais voir Altea,
répondit Yéma piteusement. Kenneth savait l'effort qui lui en coûtait. Et il éprouva une pointe d'admiration pour la ténacité du garçon. Pas Éta.
Mais tu feras ce que Kenny t'a dit.
Yéma baissa la tête, vaincue.
Je suis sûr qu'il a de bonnes raisons pour cela,
finit-il par admettre. Éta massait le cou et les épaules de Kenneth. Il se détendit à son contact et laissa se dissiper la dernière de ses inquiétudes. C'était fait. Parangon avait disparu. Altea Vestrit était à lui.
« Nous allons à Partage, » dit-il tranquillement.
Là, il trouverait un prétexte pour qu'Éta reste à terre. Il lança un regard au garçon morose. Avec un profond regret, il se demanda s'il ne serait pas obligé de renoncer aussi à lui. Il faudrait qu'il offre quelque chose à Foudre en gage de réconciliation. Ce pourrait être le départ de Yéma qu'il renverrait à sa prêtrise.